Jan Sekal, né à Prague, Jan Sekal a passé une partie de sa jeunesse tchécoslovaque à Bratislava, aujourd'hui en Slovaquie, puis a de nouveau vécu dans la capitale tchèque avant d'émigrer en France au début des années 80. Quelque temps après être arrivé à Paris, son père lui a appris ses origines juives. Aujourd'hui, fort de ses différentes influences culturelles, Jan Sekal partage sa vie entre la France, la République tchèque et Israël. S'il s'est longtemps consacré à la peinture, c'est aujourd'hui à la photographie qu'il s'adonne essentiellement. Anna Kubishta l'a rencontré.
Culture sans frontières.
Jan Sekal, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravie de vous accueillir dans nos studios. Ça fait longtemps qu'on s'écrit et on a eu un peu du mal à se croiser, mais c'est enfin le cas. Alors, vous êtes peintre, photographe, graphiste, vous vivez en France depuis 1983. Avant de parler un peu de votre histoire personnelle, j'aimerais peut-être commencer par vous demander ce que vous inspire l'anniversaire des 30 ans de la Révolution de velours que nous fêtons cette année.
Ah ben c'est quelque chose de très positif ce qui s'est passé il y a 30 ans. Après, l'évolution, elle est ce qu'elle est, c'est jamais tracé d'avance, mais je pense que pour l'instant... ça fonctionne du côté économique et démocratique.
Et comment est-ce que vous avez vécu justement cette révolution à l'époque depuis Paris?
Ah, c'était assez étrange parce que pendant la révolution, j'étais en cure de désintoxication pour arrêter de boire. Donc j'ai fait ma révolution personnelle. Et depuis, je ne bois pas.
Alors, vous êtes né à Prague en 1948, avec finalement l'arrivée du régime communiste, on pourrait dire.
On disait à ma famille, ma tante qui était communiste, ils disaient, mais quand même, l'événement le plus important du février 48, c'est ta naissance. En famille, ça, voilà.
On disait ça en famille, d'accord. Vous avez fait des études d'art, également des études de littérature française, d'histoire. J'ai cru comprendre que vous avez fait une partie de vos études, notamment à Bordeaux. Alors justement, je me demandais un petit peu dans quelles circonstances vous aviez pu faire vos études en France à l'époque.
C'était relativement simple. Il fallait déplacer les troupes de cinq pays de Varsovie vers la Tchécoslovaquie. Et après, se trouver en France, et les Français proposaient une bourse pour un an en dehors de Paris. Donc j'ai choisi Bordeaux.
Ça, c'était quand? C'était en 1969
68, l'année scolaire 68-69, j'étais à Bordeaux.
Vous n'avez pas eu envie de rester à l'époque sur place?
Envie, c'est oui et non. J'avais aussi une amie, une Américaine, qui ont projeté éventuellement d'aller en Californie. Et puis après, je me suis retrouvé un jour. J'étais en Tchécoslovaquie et j'ai passé les examens. J'étais admis à la fac de philosophie à Prague. Et donc, j'étais dans une situation où le matin, je partais en Californie. À midi, je vais à Prague, comme ça. Puis un jour, il fallait me décider. Donc, j'ai décidé de rentrer.
Quels sont vos souvenirs de cette époque?
C'était très gris. C'était le problème de la pyramide, c'est-à-dire la normalisation a coupé le haut de pyramide et ce qui était moyen était présenté comme excellent et même ce qui était bas de gamme avant était devenu comme moyen. Dans la culture, dans la vie de société, c'était très étrange comme époque. J'avais des amis à Budapest et qui refusaient de venir à Prague parce que c'était trop dépressif.
Passons à la deuxième partie un peu de votre vie, puisque, comme je le disais en introduction, vous avez émigré en France en 1983. Dans quelles circonstances?
On peut citer le parrain, là, Mario Puzo. C'est qu'on m'a fait une proposition que je ne pouvais pas refuser.
Qui vous a fait cette proposition?
C'est la STB, la police politique. Voilà. Ils m'ont donné une semaine pour réfléchir, est-ce que je pars ou non. Et après, ça a pris une année, tous les papiers et tout.
Vous les dérangez beaucoup trop?
Il paraît, sinon on ne me l'aurait pas proposé. Mais ce qui m'a plu, le souvenir d'un interrogatoire, ce que je disais, mais est-ce que je fais quelque chose d'illégal ou où est le problème? Et on m'a dit, le problème n'est pas là, mais le problème c'est que vous faites comme si on n'était pas là. Je vivais le plus librement possible, dans la limite des lois, plus ou moins. Donc, je pouvais parler en Occident, je voyageais, je suis débrouillé d'avoir une invitation pour aller à Moscou. J'habitais à Moscou chez quelqu'un, comme ça, pour voir comment c'est vraiment. Voilà, donc je profitais de la liberté qu'on avait, il y en avait un peu quand même, et voilà.
Alors, en France, à l'époque, quand vous êtes arrivé, comment est-ce que vous avez réussi peut-être à prendre vos marques, hein? Alors, vous parliez déjà français, c'était quand même un gros avantage, j'imagine, contrairement peut-être à d'autres personnes quand elles s'exilent.
C'est-à-dire, au début, on n'a pas de marque. C'est-à-dire, même, on ne sait pas si quelqu'un vous aide vraiment, ou quelqu'un. Qu'est-ce qu'il faut attendre des autres? Donc, ça prend un certain temps, et il faut un peu de chance aussi. Donc, c'est comme ça. Après 2-3 ans, je repeignais des appartements, je faisais la peinture en bâtiment.
Des petits boulots, quoi.
Des petits boulots qui s'enchaînaient, donc ça suffisait un peu. Et puis après, je me suis retrouvé chez Antonin Lim dans sa revue Lettres Internationales.
À laquelle vous avez collaboré?
Et au début, j'étais juste, je coordonnais la publicité, des choses comme ça, petit à petit. On m'a confié la bibliographie, l'iconographie, et après je faisais aussi la mise en page.
Vous avez aussi été, vous me disiez hors micro, un petit peu dans le cercle, peut-être pas tout le temps, hein, mais de la communauté tchèque exilée à Paris autour d'une autre revue, hein, Svědectví, la revue de Pavel Sigrid.
Ah oui, non, mais ça c'était, j'y allais de temps en temps, je fréquentais pas, il y avait un cercle, disons, des Tchèques qui se rencontraient, je sais pas si chaque semaine ou deux fois par mois. Dans un bistrot, ça non, ça ne me disait rien. Mais je voyais de temps en temps Pavel Tigrid. J'ai même collaboré un peu sur quelques numéros de Svědectví.
Pour la petite histoire, pour nos auditeurs qui l'ont connu, vous avez côtoyé aussi notre ami et notre ancien collaborateur Jiří Slavíček, M. Georges Rossignol.
Ah oui, tout à fait. Non, c'était un très bon ami et on a repris contact à peu près 2 ans avant sa mort. Je regrette beaucoup parce que on commençait à faire des choses ensemble. On a fait ensemble une interview pour Revolver Revue d'un photographe français et c'était très agréable d'être avec lui. Comme ça, échanger, mais bon, malheureusement.
Dans un documentaire pour la télévision tchèque d'il y a, je crois, 1 an ou 2 ans, vous dites avoir appris très tard vos origines juives par votre père qui vous l'a dit, en fait, quand vous étiez en plus déjà en France. Quels sentiments vous ont animé à l'époque? C'est quand même assez étrange et peut-être troublant d'apprendre comme ça des origines peut-être qu'on ne soupçonnait pas.
C'était assez drôle, on peut dire, parce que j'étais philosémite, on peut dire. J'avais des amis en Israël. J'avais un petit drapeau, déjà à Prague, j'avais un petit drapeau israélien à la maison. Et quand j'étais au lycée à Ostrava, je fréquentais une famille juive qui était. J'étais comme chez moi, chez eux. Mais après, à peu près une semaine, le côté qui était volontaire de ma part est devenu quelque chose de réel. Et il fallait, bon, après j'ai accepté, oui, c'est comme ça.
Et alors justement, ces origines juives se trouvent où dans votre famille?
De mon père. Et donc j'ai fait après, disons, régularisé ma situation où j'ai fait une conversion en règle et maintenant je suis juif tout à fait.
J'avais envie de dire que vous êtes tout à fait l'incarnation de ce qu'on peut imaginer d'un européen central, d'un centre européen, puisque justement, hein, vous avez toutes ces,
les origines diverses et variées. Oui, voilà. Oui. Non, j'ai dit une fois que je suis juif français de Prague.
Juif français de Prague, c'est pas mal. Est-ce que vous pensez que cette diversité se reflète d'une certaine manière, ou est-ce que vous choisissez de la refléter dans votre création, par exemple?
Refléter l'identité juive dans la photographie
ou tchèque.
Mais par exemple, j'ai des séries de photos, par exemple les fenêtres, elles sont dans chaque pays différentes. Il y a déjà, les normes ne sont pas les mêmes, déjà géométriquement, ce n'est pas différent. Et aussi, qu'est-ce que les gens mettent derrière? Parce que c'est une fenêtre qui est en même temps une porte. Voilà, donc ça c'est... Et c'est pas, disons... Et quand je fais un mélange de ces fenêtres des différents pays, ça donne quelque chose.
C'est intéressant justement sur ce cycle consacré aux fenêtres. La fenêtre, c'est un élément assez important dans, même dans l'histoire de l'art, hein, dans la peinture. Elle peut être à la fois métaphore ou instrument, hein, d'une certaine façon. Vous reprenez ce motif, à la différence près que vous, c'est de la photo et non pas de la peinture, et que vous les prenez depuis l'extérieur, non pas depuis l'intérieur, comme c'est le cas en peinture. Qu'est-ce que représente justement la fenêtre ?
La fenêtre, c'est... donne parfois envie d'entrer. Enfin, quand on la voit, on se dit... juste par curiosité, ou il émane quelque chose d'amical, ou ben on peut pas. Et puis la vie aidant, on se dit peut-être c'est mieux qu'on peut pas, parce que souvent derrière une chose très très belle, on découvre la réalité qui n'est pas toujours belle. Donc c'est la fenêtre, c'est la frontière, une possibilité.
La possibilité de quelque chose.
De contact. Parce que parfois, quand les gens mettent les fleurs sur les fenêtres, eux, ils ne les voient pas. C'est à l'extérieur qu'on les voit.
C'est pour les autres.
Oui. Donc c'est... mais en même temps, peut-être c'est des gens qui ne seraient pas contents qu'on les visite ou quoi que ce soit. Hein. Ça n'a rien à voir, mais c'est aussi... En plus, c'est un rituel qui est accepté, parce que bon, entre plutôt voisine que voisin, « Ah, t'as des fleurs comme ça, moi j'ai des fleurs comme ça. »
Ah, mais... il peut y avoir une rivalité de
oui,
fenêtres.
Oui, voilà, oui, tout ça, mais... et ça, c'est vers l'extérieur, mais c'est en même de l'intérieur, cet intérieur est important.
Vous peignez toujours ou vous consacrez essentiellement à la photo maintenant ?
Là, je pense beaucoup à la peinture, mais physiquement non, je suis un peintre qui ne peint pas. Mais je reste toujours peintre, j'y réfléchis beaucoup aux couleurs.
Et c'est important quand vous prenez les photos aussi, les couleurs ?
Parfois. J'ai maintenant une série en noir et blanc qui est intéressante aussi. C'est un peu, il me semble, la mode aujourd'hui.
Alors peut-être pour les gens qui auraient l'occasion de venir en République tchèque, ou peut-être est-ce que vous avez une exposition prévue, disons, dans l'année à venir, que ce soit en République tchèque ou en France peut-être ?
En France, non, enfin, à ma connaissance. Mais j'aurai en mai prochain une exposition à Brno, au musée juif, de mes photos d'Israël.
Donc ça, c'est l'exposition qui s'appelle Israël Terre Promise, c'est ça?
Oui,
c'est...
quelque chose comme ça. Oui. J'appelle ça toujours Terre Promise. Parce que...
Est-ce que Israël est votre Terre Promise? Ou est-ce que vous êtes en Terre Promise en Tchéquie, en France et en Israël?
J'y ai réfléchi. Je pourrais, une fois à Paris, partir j'aménage en République tchèque, aucun problème. Physiquement, on va le faire. Pour Israël, j'ai tous les papiers à l'agence juive, qu'il suffit que je le réactive et dans quelques semaines, je descends de l'avion à Tel Aviv, on me donne le passeport israélien. Voilà. Mais c'est justement bien avoir cette possibilité et de faire ce long, long, long voyage en France. Tant que je suis là, je suis quelque part en voyage, je peux toujours choisir. Et une fois arrivé, ou pour simplifier, à Prague ou à Tel Aviv, eh ben c'est fini. Le voyage est fini.